me parle?
Il y a un auditeur qui me dit que le truc des cubes, c'était la version moderne de la danse carrée. On l'a vraiment pas compris, monsieur. Vraiment pas compris. Et il y a deux auditeurs qui trouvent gentiment que mon idée est géniale. De promener, de laisser le monde se promener de scène en scène.
Oui, oui.
Non, en tout cas, peu importe.
C'est une bonne idée, mais j'ai...
Bon, mais c'est plus un défilé.
C'est plus un défilé. Ben oui, c'est le défilé des gens.
C'est les gens qui défilent. En c'est tout cas. Ça. Luc, vendredi, on a assisté durant toute cette émission au striptease judiciaire du juge François Huot au sujet de la peine d'Alexandre Bissonnette. Oui. Faut quand même rappeler qu'Alexandre Bissonnette a été condamné à la prison à vie. Et qu'il ne sera éligible qu'à une libération conditionnelle au bout de 40 ans. Oui. Mais il n'y a rien qui dit qu'il va l'obtenir.
Absolument.
Parce que lors de la libération conditionnelle, les victimes ou les familles survivantes des victimes peuvent aller témoigner et dire « moi, je veux pas pour telle raison ». La commission des libérations conditionnelles peut aussi dire « monsieur, vous ne pouvez pas habiter à tel endroit ». Ça se fait, là.
On peut mettre des conditions.
Bon, il n'y a rien qui dit qu'il va être libéré au bout de 40 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne peut pas être libéré avant ses 68 ans.
Oui.
C'est tout. Puis à 68 ans, honnêtement, là, il va coûter moins cher dans le trafic qu'en prison.
Oui, puis honnêtement, il faut aussi dire que quand tu as passé 40 ans de ta vie isolée de la société... Tu n'es plus la même personne. La personne qui a commis le crime n'existera plus.
Ouais.
Tu vas être comme une sorte de descendant de cette personne-là. Et ça me fait dire la chose suivante. Et franchement, je commence à en avoir un peu marre de ça. Au Québec, peu importe de quel crime il s'agit, c'est jamais assez, la sentence.
Mais les victimes ont le droit...
Mais là, tu sais, c'est parce que nous, on a un concept de justice au Canada, puis au Québec, qui est que la justice n'est pas là pour offrir une vengeance. La justice n'est pas vengeresse. La justice a pour but de maintenir l'ordre public, pas de se venger puis de se payer une traite sur la tête de celui qui a commis le crime.
Il y a quand même un aspect punitif, Luc, un peu, là.
Non, bien sûr, C'est l'aspect punitif qui voit au maintien de la sécurité en société. C'est ça. Mais quand on a renoncé à la peine de mort... C'est en 1974, puis il y a eu un deuxième vote en 1988 à la Chambre des communes. Du même coup, on a renoncé au fait que, chez nous, on n'accepte pas l'idée de ce qu'on appelle la mort par incarcération.
Ouais.
C'est-à-dire que je prends quelqu'un, je le mets dedans, il n'y a aucun espoir d'en sortir. C'est ce qu'on appelle la mort par incarcération. C'est vrai que les Américains pratiquent ça, mais nous autres, on ne pratique pas ça ici.
Non, mais...
Parce que nous autres, on dit... Et c'est basé, écoute, c'était des longs débats et passionnants, soit dit en passant, ce débat-là, celui de 88, je l'ai bien connu, des discours très relevés, tout ce que tu veux. C'est l'idée qu'un être humain, s'il n'y a pas une lueur d'espoir sur le long terme, ne voudra même pas vivre. Alors, c'est une forme de peine de mort hypocrite.
Moi, je trouve que les familles des victimes ont parfaitement le droit de dire qu'elles auraient aimé plus.
Bien sûr. Bon,
on est dans un pays où elles ont le droit de le dire.
Bien sûr.
Elles ont le droit aussi d'être inquiètes pour le jour où les enfants des victimes croiseront dans la rue Alexandre Bissonnette dans 40 ans éventuellement.
Bien sûr, tout ce que tu viens de dire est vrai. Mais en même temps, il faut aussi regarder les faits comme ils sont. Écoute, ce gars-là, il est cuit.
Ce que j'ai trouvé cependant de pas raisonnable, c'est, je pense, M. Labidi qui l'a dit, c'est que la peine n'était pas assez dissuasive pour les tueries de masse. Or, les tueurs de masse, là, généralement, ils sont suicidaires.
Oui, puis ils pensent pas trop à la peine.
Non. Alexandre Bissonnette, il voulait se tuer. Marc Lépine, il s'est suicidé. Les kamikazes que l'on connaît un peu partout dans le monde, ils tuent du monde en se tuant eux-mêmes, souvent.
Oui.
Alors, que ce soit 100 ans, 1000 ans, 2000 ans de peine de prison, ça changera rien. Les tueries de masse...
T'as tellement raison, Myriam. Je veux dire, d'abord, la personne qui fait une tuerie de masse, quand elle fait ça, elle n'est pas en train de se dire « Oh! » As-tu vu l'autre fois, Bissonnette a eu 150 ans? Penses-tu que ça leur traverse pas l'esprit?
La tuerie de masse, ça se guérit, ça se prévient par de la détection, premièrement, et des interventions précoces. C'est comme ça qu'on peut prévenir les choses. Pas autrement. Donc ça, j'ai trouvé cet argument-là plus faible. Mais il y en a deux autres que je peux comprendre que si je suis prise dans ce drame-là, j'en ai pas assez. Maintenant, la société, c'est pas ça. Et le juge Huot, il a rendu dans sa décision, il a été très dur à l'endroit du gouvernement conservateur qui l'obligeait à choisir entre 25 et 50 ans, alors que lui pense que c'est 40 ans. Et il a déclaré inconstitutionnel la loi qui enlève cette discrétion-là au juge. On a au téléphone...
Cette absence de discrétion-là. Cette absence
qui enlève cette discrétion-là, c'est ce que j'ai dit? Qui enlève la discrétion.
Okay. D'accord.
OK. De toute façon, on a au téléphone Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur, qui a fait de la justice son fer de lance, qui trouve souvent d'ailleurs que la justice n'est pas assez sévère. Il est au bout du fil. Bonjour, sénateur Boisvenu.
Oui, bonjour, Mme Segal. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour aussi à tous les gens qui nous écoutent ce midi.
Écoutez, M. Boisvenu, est-ce que le jugement vous paraît équitable? Est-ce que 40 ans, ça vous paraît raisonnable?
C'est évident qu'après un week-end, on prend un certain recul par rapport au jugement. On le lit d'abord et on en discute avec des collègues, on en discute avec d'autres personnes qui ont une meilleure expertise que j'ai dans le domaine judiciaire, ce que j'ai fait. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est une peine sévère. C'est la plus sévère qui a été donnée dans un tribunal pour
Québécois.
Une personne qui a tué Québécois. Exactement, Québécois. Il faut comprendre aussi que les familles de victimes, depuis 10 ans, demandaient au gouvernement fédéral de distinguer, dans une sentence, de distinguer sa gravité par rapport à un crime commis ou 5 crimes commis, ou même à la limite, une femme qui se fait agresser sexuellement, qui se fait kidnapper et qui se fait assassiner, c'est la même sentence que quelqu'un qui tue quelqu'un. Donc, on disait qu'il faudrait, dans les sentences, dans certains cas exceptionnels, avoir une sentence plus longue, en considérant le contexte de l'assassinat. Ce qui est arrivé à ce que cette modification au code criminel que l'ensemble des groupes de victimes ont applaudi. Malheureusement, on le constate aujourd'hui, la façon d'appliquer cette clause-là semble porter, en tout cas, semble, pour certains juges, on l'a vu en Ontario la semaine dernière et on l'a vu dans le cas de Bissonnette, les juges sont mal à l'aise par rapport au calcul de la sentence. Et ça l'a amené, le juge Huot, effectivement, à venir modifier le code criminel en fonction de sa perception de l'application de la Charte des droits et libertés.
Ouais.
Et ça nous met dans une situation quand même aujourd'hui complexe parce qu'il y aura d'autres événements de même nature qui peuvent se produire au Canada. C'est quand même une douzaine qu'on a connue depuis 2011. À peu près dans 50% des cas, les juges ont appliqué des sentences multiples ou du moins une sentence plus sévère que 25 ans. Et cette façon d'agir du juge Huot, elle n'est pas nécessairement partagée par tous les juristes ce matin. Certains disent il y a une forme d'activiste là-dedans qui se substitue au travail des législateurs. Donc, il faut réfléchir à ça maintenant puis dire, lorsqu'on aura à modifier le code criminel et à y mettre des éléments d'une très grande sévérité, est-ce qu'on ne devrait pas aussi donner aux juges des indications, comme la Cour suprême le fait lorsque la Cour suprême remet en question des pans de mur complets du code criminel? Pensons seulement que les éléments relatifs à l'aide à mourir. La Cour suprême a dit au gouvernement de l'époque, au gouvernement conservateur, je vous laisse un an pour venir modifier le code criminel pour faire en sorte que les souffrants et les mourants aient des droits égaux dans ce droit à mourir-là, ce que le gouvernement a fait.
Mais le juge Huot, lui, dans son livre à lui, 50 ans, c'est trop parce que là, il n'y a plus droit à l'espoir, Bissonnette. Même pas l'espoir de vivre 5 ans en liberté dans toute sa vie.
En Ontario,
l'autre juge lui a donné 25 ans. Alors, ça donne quelque chose comme MacArthur qui a tué 8 gays, c'est 25 ans. Mm-hmm. Bissonnette qui a tué 6 personnes, c'est 40 ans parce que le juge, ici, a eu le courage de dire « Les conservateurs, en me privant du droit discrétionnaire, on me prive du droit d'exercer une justice qui est saine. »
Vous avez raison. Dans le cas de Bissonnette, le juge a reconnu, l'importance d'avoir une sentence plus sévère que 25 ans.
Oui.
Ce que le juge en Ontario n'a pas reconnu en considérant l'âge du criminel. Et ça, moi, ça me questionne. Parce que les crimes en Ontario est encore, sur le plan de la gravité. Puis là, je ne veux pas mettre de note à savoir si tu as un 10. Excusez-moi.
Ben dans le cas de MacArthur, c'est pas une folie passagère. Il a persévéré.
Ah non, c'est vraiment un tueur en série qui a profané les corps. C'est vraiment un criminel psychopathe horrible qui, à mon avis, ne sortira jamais de prison. Et tant qu'à moi, lui avoir donné 25 ans ou 50 ans, le résultat à la fin va être le même.
C'est ça.
Il va être le même sur le plan de cet individu-là.
Oui, donc, mais monsieur le sénateur Boisvenu,
oui?
Est-ce que, justement, si on prend en parallèle la décision de MacArthur, la décision de Bissonnette, c'est clair qu'un ou l'autre ou les deux va se retrouver à une cour d'appel et qu'un ou l'autre oui. ou les deux va se retrouver à la Cour suprême puis qu'on va enfin en avoir le cœur net. En d'autres mots, il faut que le processus suive son cours puis d'ici quelques années, on va le savoir de façon définitive la signification de tout ça.
Vous avez tout à fait raison. Le mieux qui peut arriver dans ces deux dossiers-là, c'est que ça aille vers la Cour suprême et la Cour suprême fasse une analyse en profondeur de cette loi-là sur les peines consécutives dans les cas de meurtre au premier degré et qu'elle les rende constitutionnelles d'une part et d'autre part qu'elle donne aux juges des directives sur le calcul de cette peine-là et non de laisser aux juges l'entière initiative de modifier à sa guise. Et c'est ça qui complique après ça pour les familles de victimes, dire « Oui, mais qu'est-ce qui m'attend, moi, dans un autre cas? Est-ce que le juge va décider d'aller à gauche ou à droite? » Vous comprenez?
Ben, c'est pour ça que le juge Huot, en disant « C'est inconstitutionnel de m'obliger à choisir des augmentations de 25 ans d'un coup, là », il, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il dit à la Cour suprême « Dis-moi si c'est constitutionnel, parce que moi, j'ai de la misère avec ça. »
Il a fait plus que ça, Mme Segal. Il a considéré une partie de la sentence comme un meurtre prémédité, donc au premier degré, et les autres meurtres comme meurtres, ils ont considéré comme second degré, d'où il est venu appliquer la sentence de 15 ans. Donc, ouais. Il a même interprété à sa façon une série de meurtres comme au premier degré, qui appliquait le 25 ans. Puis comme il n'était pas intéressé à donner seulement que 25 ans, mais pas plus que 42 ans, il a considéré les crimes comme second degré.
Ouais.
Donc, il est venu aussi, dans le fond, un peu, j'irais, bâtir son argument au niveau des sentences qui, moi, à mon avis, m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que ça veut-tu dire que demain matin, un juge qui aurait devant lui quelqu'un qui a 80 ans, l'espérance de vie étant 84 ans, puis qui trouve que 25 ans, c'est trop, une sentence minimale de 25
ans. Hein? 25 ans, il n'a jamais été contesté par aucun juge. 25 ans pour un meurtre, ça n'a jamais été contesté.
C'est pas ça que je dis, Mme Segal.
Ouais.
Ce que je dis dans le cas du juge Huot, c'est qu'il a considéré 25 ans ferme parce que c'est des meurtres prémédités, et il a appliqué des meurtres non prémédités pour avoir le 15 ans pour donner 40 ans. Pour des meurtres au premier degré, parce que l'ensemble des meurtres était au premier degré.
Il a surtout blasté les conservateurs dont vous étiez, M. Boisvenu, en disant qu'ils ont suivi un agenda politique, et le résultat, c'est qu'on ne peut pas rendre de sentence équitable si on respecte, si on considère que c'est constitutionnel d'empêcher un juge d'exercer son jugement.
Ben écoutez, Mme Segal, lorsqu'un gouvernement choisit de modifier le code criminel, parce que je siège aussi au comité des affaires juridiques, on écoute des gens des deux côtés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Dans ce cas-là, les victimes ont été très entendues à ce comité-là, et veut dire on a pris parti pour les victimes. Donc, si vous dites qu'à ce moment-là, le gouvernement conservateur veut dire a mal fait son travail, ben il a aussi bien écouté les victimes. Où je pense qu'on a été faible par rapport au code criminel, c'est peut-être de ne pas donner les bonnes directives dans le code criminel sur le calcul de la sentence dans des cas particuliers. Ce qui se produit, et si on prend le cas des Autochtones, un exemple, on sait que le code criminel a des prescriptions particulières lorsqu'on applique des sentences pour ces communautés-là. Donc, on aurait pu facilement, dans l'écriture de cette loi-là, être plus précis pour donner aux juges un alignement sur le calcul de ces sentences-là. Mais les conservateurs, ce qu'on fait pour modifier le code criminel à ce niveau-là, c'est qu'on a écouté les familles de victimes.
Ouais, mais
est-ce que j'ai raison de faire le raisonnement suivant? Bissonnette est en dedans, là, puis c'est probablement que de mon vivant, il sera toujours en dedans. Là.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de danger pour la société, la punition est là et tout ça. Et d'ici 3-4 ans, la Cour suprême va se prononcer, puis le débat sera clos. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça?
Absolument.
Okay. Dans le fond,
c'est ce que tout le monde espère aussi.
C'est ça. Et dans le fond, Bissonnette, là, il est éligible à une libération. Il n'y a rien qui dit qu'il va l'avoir.
Non, mais ça veut dire que dans 40 ans, la commission de libération constitutionnelle, elle sera rendue où ce qu'elle sera rendue.
Ouais.
Mais 40 ans, c'est
mais Bernardo, ils lui ont refusé, là.
Oui, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que rien ne peut présumer qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans, là. Moi, je dis, lorsque les gens disent, oui, ben la commission de la 40 ans, bon, on verra dans 40 ans, mais 40 ans, vous savez, c'est très long dans la vie d'un individu, là, qu'ils soient en prison ou qu'ils soient en liberté.
C'est pour ça que moi, ça me semblait raisonnable, d'ailleurs, dans les jours qui avaient suivi.
Mais Mme Segal, je veux vous corriger, je n'ai jamais dit que c'était déraisonnable.
Oui, mais c'était pas possible. Avec la loi comme vous l'aviez passée, c'était pas possible. Comprenez-vous? Vous avez rendu impossible quelque chose qui est raisonnable.
C'est-à-dire, ce qu'on a mis dans la loi, c'est qu'on a mis le principe des sentences consécutives plutôt que concurrentes.
Ouais.
On prend un exemple, le cas d'un agresseur qui va violer 5 femmes. Aujourd'hui, la façon qui c'est fait, le juge peut difficilement donner des sentences consécutives. Même si c'est 5 ou 10 victimes, ça va être une sentence. On voulait l'appliquer, dans exemple, dans le cas de la loi 452, la loi sur la prostitution juvénile, de faire en sorte qu'il y ait des sentences consécutives pour les proxénètes qui ont 5 ou 10 filles dans leur réseau, pour avoir des sentences beaucoup plus lourdes que des 2 ans moins 1 jour.
Ouais.
Mais le gouvernement libéral a décidé de ne pas aller d'avant avec ça. Donc, la notion de sentence consécutive, je pense, dans les cas de multiples meurtres, il n'y a personne qui la remet en doute. Ce qu'on remet en doute aujourd'hui, ce que le juge a fait, c'est sur, je dirais, la longueur de la sentence lorsqu'on arrive à 150, 200 ans. Donc, moi, je me dis, revenons au principe de base en disant, OK, s'il y a un meurtre qui est commis ou 5 qui est commis, la sentence doit être plus grave. Maintenant, comment on la calcule?
OK, mais peut-être que c'est au juge de décider ça. Dans le code criminel, on pourrait juste dire, dans le cas de meurtre multiple, le juge a l'obligation de donner plus que 25 ans ferme et il peut aller jusqu'à 150 ans.
Ouais, mais moi,
et là, on laissera les juges décider selon leur jugement, parce que visiblement, ils en ont quand même.
Oui, mais je pense que la Cour suprême, c'est peu donné, parce que dans le fond, là, maintenant, on va pouvoir modifier le code criminel, parce que le juge le fait. Je pense que si on a à le faire, ce serait intéressant de le faire dans un cadre que la Cour suprême donnerait au législateur pour le faire, pour pas que cette loi-là soit contestée à nouveau.
Oui, vous avez raison, parce que là, on va s'amuser à jouer au ping-pong avec les
victimes. Comme la loi d'accès à la mort, la loi pour l'aide à mourir, on devrait, à mon avis, d'ici quelques mois, retravailler ce projet de loi-là, parce qu'on a des causes devant la Cour suprême, on a des causes devant la Cour d'appel, et ces cours-là vont dire au gouvernement libéral que la façon qu'on a fait la loi C-14, qu'on a discriminé les mourants des souffrants, on aura pas seulement à refaire notre travail à ce niveau-là, mais on aurait pu bien le faire il y a 3 ans aussi, parce qu'on avait amené une modification dans ce sens-là qui n'a pas été acceptée. Donc moi, je pense que si on a à revoir aujourd'hui les peines consécutives dans les cas de meurtre au premier degré, ça serait intéressant que la Cour suprême donne aux législateurs les directives pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans 2-3 ans encore devant un appel sur une sentence qui serait pas, je dirais, dans les attentes des victimes.
Merci, sénateur Boisvenu.
Merci beaucoup.
Ça me plaisir de vous avoir parlé.
Bonne journée.
Au revoir.
Bonjour. Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
Ah, je trouve qu'il faisait preuve de beaucoup de nuances. J'étais content d'entendre ça.
Puis tu vois, il le dit lui-même.
C'est pas toujours le cas avec lui. Là.
Il le dit lui-même. Il dit, là, on a eu la fin de semaine pour décanter, puis pour réfléchir, puis pour lire, etc. Mais c'est sûr qu'il faut être très sensible aux victimes.
Il ne faut pas
faire ce que les victimes veulent.
Ben non, donner un exemple. Ça, c'est une justice vengeresse. C'est pour ça qu'on...
Pas seulement, Luc. On l'a fait dans le cas de Polytechnique. On a laissé les victimes réclamer des choses qui n'avaient pas de rapport avec le drame parce que ça a été un exutoire pour leur chagrin.
Mm-hmm.
Puis on s'est ramassé dans des gaspillages épouvantables.
En d'autres mots, ne lançons pas la pierre à la communauté musulmane qui a réagi avec de l'extrême émotion. Néanmoins, ça ne change pas mon opinion, que je pense que le juge a pris une excellente décision dans les circonstances qui étaient celles qu'on connaît maintenant, et en attendant que la Cour suprême, éventuellement, arrive avec un calcul qui va être définitif et qui va devenir la loi du pays.
Et là, on se retrouve devant des cas qui sont... Il y a comme une distorsion. 8 gays tués à Toronto, 25 ans ferme.
Ouais.
3 policiers tués à Moncton, 75 ans ferme.
Ouais.
6 musulmans, peu importe.
6 personnes tuées
six
à Québec
personnes dans
une
lieu de culte. Ouais. C'est 40 ans ferme. Là...
Mais il faut que le plus haut tribunal au pays tranche, parce qu'il y a trop de jeux à l'heure actuelle d'un à l'autre, tu l'as bien expliqué. Et je te dirai en passant que s'il y a des gens que ça intéresse, j'ai obtenu une copie électronique du jugement. Faut donner quelque chose au juge Huot, que j'ai trouvé qui faisait un peu striptease vendredi, qui faisait un peu théâtral. C'est extrêmement bien écrit. Hein. C'est vraiment ce gars-là. Je sais pas si c'est lui qui tient la plume tout le long, parce que c'est vraiment bien écrit.
Et même si pour nous, ça a été un peu compliqué vendredi, là, C'était fait dans une séquence
absolument
logique. La description,
oui, absolument. C'est super
circonstances
bien fait,
aggravantes, circonstances atténuantes,
il règle
décision
pas le débat, mais...
idéale, ouais. L'aspect constitutionnel.
Ouais. Puis le gars, on peut pas dire qu'il vient de donner un exemple, mais il vient d'ajouter une pièce au dossier qui, lorsque la Cour suprême aura à se prononcer, ce jugement-là est extrêmement substantiel, qu'on prend beaucoup de notions de droit qui s'entrechoquent, et c'est surtout très, très bien écrit.
Je voudrais cependant, Luc, mettre en garde les gens là, qui disent « Ouais, les musulmans, ils auraient voulu que ce soit comme dans leur pays. » Leur pays, c'est ici. Leur pays, c'est ici. Et il y a plein de victimes d'actes criminels qui se plaignent des sentences bonbons qu'on donne.
Je suis content de t'entendre dire ça parce que je suis tanné de cette histoire, leur pays, qui retournent dans leur pays. Le leur, c'est ici.
C'est ça.
Ils sont citoyens, il n'y a pas de demi-citoyenneté
ici. Et c'est pas parce
ici,
qu'ils sont musulmans qu'ils veulent une peine plus lourde. Non. Ils veulent une peine plus lourde comme toutes les victimes d'actes criminels trouvent généralement les peines insuffisantes.
Ben oui,
rappelez-vous le nombre de gens dont les enfants sont morts à cause d'un accident de la route. Ouais. En état d'ébriété et qui ont réclamé des peines plus lourdes pour les ivrognes au volant.
Ah ben oui, non,
ces
mais
gens-là,
ça fait partie des émotions.
Et pourtant, ils contestent la sentence.
Oui, mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu, Myriam, ils ont le droit de la contester.
Oui.
Ils ont parfaitement le droit de la contester. Je comprends les sentiments qui animent leur contestation. Néanmoins, je pense qu'il faut d'abord s'en remettre au magistrat qui a fait un travail, c'est le cas de le dire, magistral. Lisez-le, vous allez voir que c'est assez convaincant.
OK, il est 11h48. Dans un instant, le ministère des Transports qui nous dit officiellement le contraire de la semaine dernière.
C'est égal, la voix.